Les cours du Collège de France, Bao Chao Ngo, chères formes automorphes.
Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire des rappels essentiellement sur le sens de Bernstein. Les références principales sont d'abord bien sûr l'article de Bernstein rédigé par Deligne. Et pour ce que je veux faire après, l'article de Yannot de Moy et Tadic. Qui sont essentiels. Le Bernstein Center. In terms of locally integral functions. Donc, de nouveau, c'est tout le cours est basé sur un travail avec Zillingbourg. Donc, pour ce cours aujourd'hui, probablement, c'est tout est comme lui avant. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais j'essaie de rappeler des choses dans l'ordre dont j'ai besoin. Donc, c'est un groupe réductif. Un corps F, un corps local non archimédien. Donc, on a le groupe G de F, c'est le groupe localement compact, et on appelle H l'ingep des mesures localement constantes. Par rapport aux mesures de R, et qui sont un support compact. Donc, c'est la même chose que des fonctions localement constantes support compact, sauf que si on prend des mesures. On peut définir pour les convolutions canoniquement sans le choix d'une mesure de R. Donc H est une algèbre pour le produit de convolution qui est canonique, donc indépendant. Du choix de la mesure de R. Donc, je rappelle que il y a la notion des représentations lisses. De G de F sont des représentations telles que les stabilisateurs de tous les vecteurs sont des sous-groupes ouverts et c'est la même chose que les H modules non dégénérés et non dégénérés ça veut dire que si on tient V ça revient à dire que H tense V. On va sur V, donc sur V il y a un axiome à droite de H, et si on fait pour le tensorien par rapport à l'axiome de H sur lui-même à droite, Eh bien, on a un morphisme qui est H-ligné à gauche, et c'est un isomorphisme. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, enfin, légèrement compliqué, parce que H est une...
est une algèbre. Une algèbre non commutative et sans unité.
Donc s'il y a une unité, c'est pas la peine de prendre la précaution non dégénérée, c'est certainement non dégénérée. Et donc, avec ça, on va définir deux choses. On peut définir une sorte de complétion.
Une complétion H chapeau de H, et puis le sang de Bernstein. Z, qui sera le sang de H chapeau.
Donc tous ces signes de complétion viennent du fait que cet algèbre, ça n'a pas d'unité. Et donc pour ça, on va, c'est peut-être même plus clair de prendre une algèbre quelconque. Donc je prends le H capital, une algèbre donc non commutative et sans unité. Et donc, H mod 1 sera la catégorie des H mod 1 non dégénérés. Donc, pour le mod 1, j'entends non dégénéré. Ça veut dire que si j'ai cette condition H, tense H, V, H est un. V est un isomorphisme. Et donc, pour les définitions suivant Bernstein et Deligne, un H chapeau, c'est l'anneau des endomorphismes du foncteur d'oubli de H module vers l'espace vectoriel sur C. Donc, on suppose que ce sont des C algèbres. Et le sang de H chapeau, ça va être les endomorphismes du fond identique, donc ça c'est fond d'oubli, dans lui-même. Donc ça c'est une définition un peu abstraite, mais c'est pas difficile de les faire, de le voir plus concrètement. Donc, on remarque. C'est que H chapeau est exactement la même chose que les endomorphismes,
l'anneau des endomorphismes
de H en tant que H module à droite. Donc, vous voyez bien que ce H en tant que H, donc H est un objet de la catégorie de H module à gauche non dégénéré. Et donc l'axiome H à droite, l'axiome à droite, sont des endomorphismes de cet objet
Donc, du coup, on a bien un H chapeau qui s'envoie bien dans les endomorphismes de H en tant que H module à droite. Et inversement, quand vous avez des endomorphismes, quand vous avez un endomorphisme H à droite, on utilise la condition nombre dégénérée. Donc si on a l'axiome des endomorphismes de H en tant qu'H à droite, on aura aussi un morphisme de Fonteur d'oubli. Donc c'est plus concret. Et puis, avec ça, vous voyez bien que aussi que le sang de H chapeau est bien les endomorphismes du fond d'identité. C'est ceux qui commutent à gauche et à droite. Donc voilà. Il y a une définition un peu plus pratique, donc il y a plusieurs définitions, donc il y a une plus pratique. Aussi bien de H chapeau que du sang de Bernstein, c'est que le H chapeau. Maintenant on revient à H et H, et H rond, c'est l'algèbre de Hecke, l'algèbre des mesures localement constantes par rapport à la mesure de R et à support compact. Et donc H chapeau serait l'ensemble de distribution sur G de F tel que pour tout H dans H. Donc quand vous avez une distribution sur G de F et là une distribution support compact, vous pouvez faire pour les convolutions et on veut que D convolue à H qui a priori une distribution sur G de F, eh bien on veut qu'il soit dans H. Donc c'est des endomorphismes de H qui sont définis des distributions. Donc c'est une définition. Donc alors on voit pourquoi c'est la même chose. Donc pour tout. Donc si on prend on prend X, un élément de H chapeau, comme définition comme les endomorphismes de H en tant que H module à droite. On veut faire une distribution. Alors comment on fait? Oui. Non, invariant c'est le centre. Ici c'est de compléter. Le compléter c'est juste des endomorphismes. Alors c'est on prend pour tout sous-groupe ouvert compact K de G de F, et bien la mesure canonique sur K, donc c'est la mesure de R qui donne le volume 1 au K, est un élément de H, et donc X de E de K, et bien c'est un élément de H qui est c'est un élément de H fois E K. Parce que cet axiome de X sur H, il commute avec la commutation à droite. Donc on a X de E K, E K, et X de E K. C'est bien dans H de EK. Et puis donc on a un système. Donc c'est un système compatible. Donc l'élément X dans H chapeau, comme l'endomorphisme du foncteur d'oubli, donne lieu à un système XEK dans HEK sur les cases de sous compas ouvertes. Et que si c'est compatible. Donc ce qui nous donne une flèche de H chapeau vers la limite projectif de HEK sur les sous-comportes ouvertes. Et ce n'est pas difficile de voir, c'est un isomorphisme. Donc c'est une autre définition encore de ce centre de Bernstein. Et pour construire la distribution, pour tout H, donc pour tout H, je fais des fonctions sur GDF. Eh bien, on peut voir X. Alors, il existe K sous groupe compact ouvert, tel qu'il est inventé à gauche par K. Et donc, du coup, on peut faire X de EK de H. C'est la même chose que X EK H. Parce que c'est laissé ligné à droite. Donc c'est. Et puis on peut définir la distribution en faisant X, H dual, H contre-gradient, évalué en élément d'unité du groupe. Donc ici, H, comme d'habitude, c'est ce H check. C'est l'élément H de G, c'est H de G moins 1. Donc voilà, donc j'ai plus ou moins esquissé une autre caractérisation de cette complétion de H comme une limite projective de HEK, donc c'est seulement à droite, et ensuite on peut le construire une distribution. Donc ça, donc quand on met ensemble, ça donne cette définition de compléter l'algèbre de Ecke comme l'ensemble de distribution sans condition, mais tel que lorsqu'on fait la convolution V distribution à support compact et localement constante, eh bien le résultat est le même. Et du coup, ça fait une algèbre, parce que ça fait un sous-algèbre des endomorphismes de H. Et c'est le même que l'algèbre d'endomorphisme de H qui commute alors sur à droite. Et avec ça, on voit que, comme en suivant ce raisonnement, on voit que si on veut que ça commute aussi la somme à gauche, du coup, le centre de Bernstein, qui est le centre de H chapeau, c'est l'algèbre des distributions. Mission à une variante D sur G de F, tel que D convolue avec H et dans H. Donc c'est essentiellement support compact. Donc on convolue avec une distribution super compacte, ça on retrouve un truc compact. Voilà. Donc tout ça, c'est plus ou moins le premier. Partie de l'article de ligne, qui est essentiellement la même chose. Mais ici, on voit un petit problème, c'est que en présentant de cette façon, on ne voit pas bien la structure d'algèbre. Parce que quand on multiplie à droite, EK, ce n'est plus une algèbre, c'est un vectoriel. Donc ça, c'est une présentation comme vectorielle. Et on a un peu perdu la structure d'algèbre. La raison est que ces idempotents EK, c'est des idempotents dans l'algèbre de Ecke, mais ce n'est pas un idempotent central. Donc, on verra plus tard pourquoi il y a une famille d'idempotents centraux qui sont meilleurs. Donc, il y a le théorème central dans l'article de Bernstein rédigé par Delin.
ça dit que Z, ce sont de Bernstein, et aussi l'anneau des fonctions régulières sur oméga, où oméga, c'est la variété de Bernstein, dont je vais rappeler définition. Donc, les ensembles de points de oméga, c'est l'ensemble des les classes d'équivalent des représentations irréductibles lisses de G de F divisé par l'équivalence inertielle ou l'équivalence d'un équispidal. Toute représentation irréductible de GDF est un sous-quotient d'une induite parabolique d'un supercuspidal d'un sous-groupe de Lévy d'un parabolique. Et si on induit à partir du même parabolique et de même, eh bien, il peut avoir plusieurs sous-quotients et on les considère comme équivalentes par cette relation. Donc ça, c'est l'ensemble des points. Et puis on met une structure algébrique là-dessus. Essentiellement en déclarant que si N, un sous-groupe de Lévy, des oméga, une représentation supercuspidale de N de F, alors on peut faire des induites normalisées de N à G de oméga tense qui, où qui est un caractère non ramifié de N de F, ce qui nous donne une flèche de l'ensemble des caractères non ramifiés qui est une sorte de C étoile à certaines puissances vers cet ensemble oméga. Et on déclare que c'est une morphine algébrique. Et essentiellement, c'est la seule structure canonique de oméga telle que ce morphisme, ces flèches, est algébrique. Donc, c'est des familles, des induites cuspidales avec des induites paraboliques avec des torsions non ramifiées. Ça fait des familles algébriques par rapport à la structure algébrique sur la variété de Bernstein. Pour être précisément, il y a un groupe, il faut diviser par ce groupe, mais je ne vais pas rentrer dans ces sombres détails. En tout cas, une fois qu'on définit, Z devient bien l'injet des fonctions régulières dessus. Alors, donc, le avec ça, on aura beaucoup d'idempotents de Z. Donc chaque fois qu'on a un ensemble fini I, donc c'est un pi 0 de oméga, l'ensemble des composantes connexes de la variété de Bernstein est typiquement infini, dénombrable. Et si I est sous-ensemble fini, eh bien, on a un idempotent epsilon i qui est la fonction sur oméga qui vaut
c'est la fonction qui vaut 1 sur les composantes dans cet ensemble fini I et 0 ailleurs. Eh bien, c'est vivement idempotent. Et c'est un idempotent dans l'algèbre de Hecke. Et du coup, c'est des idempotents centraux, donc c'est plus agréable que ces idempotents EK. Donc, par exemple, si on prend, si G est un groupe semi-simple, et si pi est une représentante supercuspidale, donc alors pi est un point isolé. Donc oméga, du coup on a cet idempotent epsilon pi et on a une jolie formule explicite pour cet idempotent. C'est j'ai fait une petite erreur la semaine dernière, c'est theta pi, mais il y a un check fois dpi dg, où theta pi c'est le caractère distributionnel de pi. Donc c'est une fonction qui est localement intégrable et lisse sur la partie régulière semi-simple. Et theta pi check, c'est de nouveau, on remplace g par g moins 1 dans le paramètre. Et je crois que si on prend h, pi, epsilon pi, on devait trouver les coefficients de matrice de V. Voilà, donc ça c'est un peu le rappel de structure de cet algèbre. Cet algèbre de Hecke complété, donc il a un centre. Un centre est c'est l'algèbre de fonctions régulières sur le V de Bernstein. Et il y a beaucoup de composantes, donc il y a des idempotents centraux qui sont donnés essentiellement par les caractères. Donc maintenant, je vais passer à énumérer quelques sous-algèbres remarquables du son de Bernstein. Donc d'abord, il y a un sous-algèbre. La notation n'est pas très bonne, mais NC pour localement constante. Ce sont des éléments Z dans Z, donc qui définit des fonctions localement constantes sur oméga, donc sur la variété algébrique complexe. Donc c'est essentiellement les fonctions, c'est la même chose que les fonctions sur l'ensemble des composants complexes pi 0 de oméga, parce qu'ils sont constants sur les composants, donc c'est une fonction sur l'ensemble des composantes. Et c'est un, et
Donc ça, c'est des fonctions spectrales, c'est cette sous-engèbre, c'est des fonctions peut-être qui sont des fonctions constantes sur les composants de Weber-Bernstein. Et on peut se demander quelles sont les distributions qui correspondent à cette sous-engèbre. Donc là, il y a un théorème remarquable qui dit à Jean-François Date, et complété par Braverman et Cashden. Qui dit que Z est dans ce Z localement constant si et seulement si en tant que distribution une variante sur G de F elle est supportée par les éléments compacts. Donc les éléments compacts, c'est les éléments tels que le polynôme caractéristique et les racines sont tous des éléments entiers dans les extensions fini du corps de base. Alors, bon, là, Jean-François expliquerait beaucoup mieux que moi, mais je prends l'idée c'est plus ou moins que lorsque c'est des éléments compacts, les éléments compacts ne voient pas la torsion par les caractères non ramifiés essentiellement. Du coup, ça devient constante. Bon, je crois que l'argument est plus compliqué que ça, mais non? Tu te souviens de mon argument? Non. Parce que Jean-François a démontré ce sens-là. Si c'est un des impotents centrales, l'un de ces epsilon pi, alors la distribution correspondante est supportée par exemple compacte. Et Braverman-Cashden a démontré le sens inverse. Que si c'est un dispositif dans un élément du centre de Bernstein qui est supporté par exemple compacte, alors ça devient. Ça devrait essentiellement combiner donc linéaire, la saisie d'impotence centrale, si je me sens trop. Voilà. Je ne vais pas utiliser ça, mais je trouve que c'est vraiment joli que je mentionne. Mais ce dont j'ai besoin plus tard, c'est un théorème de Moore et Tadich, dont l'énoncé qui se ressemble un peu, mais le contenu est différent. Donc, on note Z0 c'est l'idéal, plus ou moins plutôt l'idéal. C'est un sous-engèbre sans unité, disons. C'est l'idéal de Z qui consiste en les fonctions régulière sur oméga qui s'annule en dehors de la réunion d'un nombre fini de composantes. Donc c'est un peu long, mais c'est juste des composantes. Donc ici, c'est des fonctions qui ne sont pas nécessairement supportées par les non-finis éléments, mais sont constantes sur les composantes. Là, on demande qu'ils s'annulent en dehors de. Mais justement, l'intersection des deux sera une somme finie de ces idempotents centraux. Alors, le théorème de Moore et Tadich, ici, ce n'est plus seulement si, mais c'est seulement une direction. Donc moi et Tadich dit que si Z est dans Z0, donc c'est un élément dans le centre de Bernstein qui s'annule en dehors de la réunion d'un nombre fini de composantes de la variété de Bernstein, alors en tant que distribution,
Alors on peut écrire Z comme JZ DG, où JZ est une fonction, non une vraie fonction, invariante, fonction sur G de F, invariante, localement intégrable. Intégrable par rapport à la mesure de R. Et localement glisse sur la partie irrégulière semi-simple. Voilà. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas vrai pour toutes les aimants du centre de Bernstein. Par exemple, pour l'identité du centre de Bernstein, c'est la distribution de Dirac concentrée en unité, ça n'a aucune chance d'être une fonction. Donc le fait que ce soit une fonction, ça correspond plus ou moins au fait que c'est supporté par non fini de composantes de Bernstein. Mais c'est, de nouveau, ce n'est pas du tout si et seulement si, il y a un sens. Il y a justement pas mal de distributions qui sont des fonctions, mais qui justement les noyaux de Bavman-Cashdan ont tendance d'être des fonctions sans être supportés par nos filles de composantes. Mais on va revenir ça plus tard. Donc, est-ce que c'est une démonstration de ce terme de Moyen-Tadic? Escamoter tous les arguments analytiques, un peu délicat, mais je vais voir comment ça marche à peu près. La preuve, bien sûr, nous était terme de Pancherin. Si Z est dans un élément du centre de Bernstein Z et si phi une fonction lisse à support compact sur G de F, eh bien on écrit l'accouplement de Z appliqué à phi. Comme d'habitude, on va écrire comme Z convolé avec phi check et évalué sur A, sur l'unité de G. Et ensuite, on va appliquer le théorème de Pancherin à cette fonction. Eh bien, on va faire une somme sur les M. Il y a des tas de constantes que je ne connais pas bien. Je me contente d'écrire. Donc, il y a des levis. Donc, il y a ce constante. Et donc, là, c'est des sur l'ensemble de la carré intégrable de M. Le Z chapeau de oméga, l'intégrale sur G, phi de G, le caractère de l'induite. De quoi c'est le caractère de l'induite? Et puis il y a d'autres choses, il y a de réformer une fonction mu, dw. Et il se trouve que lorsque Z est dans ce Z0, donc ça c'est une somme finie. Donc l'intérêt c'est qu'on fait une somme finie. Donc il y a une somme finie de I à 1 à N. Donc de A de G sur MI. Donc il y a une intégrale sur le psi de MI, donc sur le cercle unitaire. Donc c'est une intégrale sur une étude compacte. Donc Z chapeau, donc c'est
Ce que j'ai gamma dans la semaine dernière, mais dans l'article de Moïse, qui s'appelle ça Z chapeau, donc c'est des fonctions sur oméga correspondant à ce Z. Oméga G phi G donc c'est développement de planche reine, mais c'est le seul point je crois important, c'est que dans l'hypothèse Z, donc Z0, 0, on a un ensemble fini. Et puis une intégrante sur un cercle compact. Et avec la convergence, il faut démontrer une certaine convergence absolue, qu'on peut échanger cette intégrante contre celle-ci. Donc ça c'est la partie analytique que je j'escamote. Donc il y a des... Donc il y a une absolue, la convergence absolue. Qui donne lieu à la possibilité d'échanger l'autre d'intégration. Donc on l'intègre sur le cercle d'abord et ensuite sur G. Donc du coup, l'expression là-bas devient une intégrale sur G de F de phi G contre ce JZ GDG. Ou JZ, c'est la même chose, mais comme la JZ de G, c'est la somme de I à 1 à N. Donc là, l'intégrale sur le. Sur les caractères non ramifiés unitaires. Je vous épargne, parce que j'écris, je vais me faire encore plus de bêtises si je n'écris pas. Mais je crois que l'essentiel de la démonstration, c'est juste un échange d'intégration. Et on peut le faire parce qu'il y a le. Justement, comme on n'a pas à faire avec la somme infinie. La somme infinie, ça va être pas possible de le faire. Donc voilà. Donc, j'ai déjà une sous-algèbre localement constante, des fonctions qui sont localement constantes sur la variété de Bernstein, donc qui correspond aux distributions qui sont supportées par les éléments compacts. Et puis, on a un autre sous-algèbre sans unité, des fonctions qui sont supportées par un nombre fini de composants de la variété de Bernstein. Ça correspond à des fonctions, localement intégrables. Donc maintenant, on va faire une chose plus dure. Donc là, c'est parti. Bien sûr, c'est fait que pour SN2. Mais ça devait marcher en général, mais bien sûr que c'est beaucoup plus profond. Tout ça, ça marche, bien sûr, en toute généralité. On va parler des sons de Bernstein stables. Donc on a sous-algèbre ZST du centre de Bernstein qui a des définitions qui devraient être équivalentes, mais on ne sait pas encore. Donc les définitions. La définition 0, c'est en quelque sorte ce qu'on veut faire, c'est les éléments Z dans Z, tel que qui induit
des formes constantes sur les n paquets dans les paquets tempérés. Donc, cette définition suppose qu'on connaît les n paquets. Donc, dans le cas SN2, on le connaît parce que c'est des n paquets. C'est simplement les restrictions de représentation de GN2 dans SN2. Donc, ça se découpe parfois en deux représentations, parfois ça se découpe en quatre représentations. Tout ça, ça fait n paquets. Et on veut que cette fonction-là ne dépend pas de représentation individuelle, mais parle du paquet. Donc, par ces définitions-là, c'est certainement une algèbre. Donc, avec ces définitions-là, ZST est une algèbre. Parce que la condition sur les paquets reste et conservée quand on fait des multiplications. Mais c'est conjectural en général. La définition des n paquets reste conjecturaux. Je crois peut-être les travaux de Fark et Schoenzer peut-être dans les définitions des n paquets en général. Mais bon, en tout cas, ça, si on connaît les n paquets, c'est différent en sens. Et la deuxième définition due à Lan-Lan, c'est on dit que Z est dans ZST si Z se trouve dans Z intersecté avec la clôture faible des intervalles en orbite instable. Donc, on ne sait pas du tout que les intervalles instables sont dans Z. Il y en a qui y sont, il y en a d'autres qui ne sont pas. Mais on peut, en tant que distribution, on peut prendre l'espace engendré par ces intervalles orbites instables et prendre la clôture faible. Et on prend la clôture faible intersectée avec le centre de Bernstein. Et c'est ça, c'est le film de Lan-Lan pour le centre de Bernstein stable, ou Lan-Lan ou il y a des travaux aussi de Bezukhavnikov Kashdan et Varshavsky donc dans l'esprit de de mon exposé la semaine dernière donc j'avais défini cette flèche de H s'envoie vers SO de H. Donc c'est fait linéaire de H dans SO de H, c'est des espaces des intervalles orbites instables de H. Et donc on a ce IST, le noyau. Ce sont des fonctions tests qui donnent lieu aux. Qui ont des intervalles orbites instables nuls. Donc ce que dit ceci, c'est de ces définitions, c'est que ZST. C'est des éléments Z dans Z, tel que Z de IST est nul. Si on accouple Z avec n'importe quel élément dans ce noyau, on trouve 0. Parce que précisément, ce noyau sont des éléments dont toutes les intervalles orbitales stables sont nuls. Les intervalles stables, régulières, semi-simples. Donc là, ces définitions-là, elle a l'intérêt que il n'est pas conjectural, on n'a pas un paquet, mais ce n'est pas clair. Avec ces définitions, ce n'est pas clair que ZST est une sous-algèbre.
Une finesse est la même chose parce qu'on doit être équivalente, mais le, on ne le sait pas.
Si on remplace par Z étoile IST égale 0, là ça fait quelque chose qui a un nom, vous voyez que c'est trop fort.
Hein. Z étoile, c'est quoi?
Z étoile, ben, je multiplie.
Ah, ben, je vais.
Je multiplie et j'évalue partout.
Justement, donc, le lien de la définition 2, la troisième définition, c'est que Z est dans ZST. Si seulement, bon, ZST c'est Z dans Z, tel que pour tout phi dans IST, Z convole avec phi et dans IST. C'est ce que tu dis, c'est la convolution préserve cet idéal. Donc là, du coup, c'est bien sous algèbre. Donc c'est clair que c'est une. Donc ici, c'est clair que c'est une sous algèbre.
IST, c'est celles qui ont des intégrales orbitales stables nulles.
Toutes, oui, c'est ça, oui.
Plutôt des instables. La notation est bizarre.
C'est idéal, oui, c'est, oui, je peux changer, mais il faut me donner une suggestion. Oui. Voilà, donc ici, cette définition, c'est ce qui est plus agréable, c'est que c'est sous algèbre. En fait, je crois que c'est assez facile, donc disons que c'est ZST 0, ZST1, ZST2. Donc pour le cas de je crois qu'en général, en fait, pour ce qu'on veut faire, on peut se contenter de prendre la dernière définition. Parce que tout ce qu'on veut, c'est le. Parce qu'on a toujours que ZST2 est inclus dans ZST1. Donc si cette définition stabilise l'idéal, alors il s'annule. Parce que si on pour le voir, si on fait ceci, je l'ai fait un peu formellement, mais Z contre phi, c'est la même chose que Z fois la définition de Dirac contre phi, et c'est la même chose que la définition de Dirac contre Z de phi. Donc, si il est dans le si Z se trouve dans cette IST2, alors ça c'est dans IST aussi. Du coup, c'est comme l'addition Dirac est bien stable. Donc ça c'est nul, donc ça c'est nul. Donc ça c'est une démonstration que 2 est inclus dans 1, donc 2 plus petit, et il est bien un sous-algèbre. Et aussi par définition, on a une action de ZST, deuxième version, agit sur SO de H. Parce que c'est vraiment le truc qui est important pour nous, parce que c'est par définition. Ce ZST stabilise cet idéal, donc il agit sur le quotient SO de H. Et dans le cas SN2, les trois définitions sont équivalentes. Donc dans le cas de. Conjugué avec SN2 de F, les trois définitions sont équivalentes. Donc je ne saurais pas vous faire démonstration. Donc là, c'est la partie. Mais en tout cas, le point essentiel, je crois, c'est que dans le cas SN2, on peut retrouver les paquets en restreignant Et la seule chose dont on a besoin, c'est que lorsqu'on écrit la mesure de Planck-Schrenn, sur les deuxièmes ordres de paquets, on trouve le même nombre.
Pour SLS, je crois que la définition 1, on sait
que c'est une algèbre.
Parce qu'en fait, je crois, il me semble pour SLN, dire que c'est stable, ça revient à dire que c'est GLN invariant. Donc après, on vérifie. Donc il faut démontrer que le stable pour SLN, c'est pareil que GLN invariant. Et après, une fois que tu sais que c'est GLN invariant.
D'accord. D'accord. Donc pour SGLN, ça doit être la même si c'est. Oui. Donc c'est l'argument de Weimar chez les trois, là, équivalent pour SGLN, j'imagine. En tout cas, voilà. Et donc, alors pourquoi on veut faire ça? Parce que de nouveau. Donc on a une action de. Donc c'est celle de point de l'exposé de la semaine dernière. Je reviens là-dessus, je vais insister là-dessus, c'est vraiment le but du cours en quelque sorte. Ça paraît vraiment banal, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Donc SOH, c'est l'espace des orbitales stables. Donc c'est un espace de fonction. C'est un espace de fonction. De fonction sur le quotient de Sternberg, parce que l'on lance un rappel la base de Sternberg-Hitchin pour une raison peut-être pas très bonne, mais entre sinus affine, donc c'est des fonctions lisses en dehors du diviseur discriminant, et en fait c'est local. Donc c'est un faisceau, on a un faisceau sur cet espace, donc ça c'est de l'espace de section en quelque sorte. Donc ça c'est plus joli, mais par définition on a une action de ZST agit là-dessus, parce que ZST c'est précisément par la deuxième définition, c'est la sous-algèbre qui conserve le noyau, donc il agit sur le quotient. Et par la première définition peut-être, un élément de ZST, si Z est dans ZST fine, donc c'est j'aurais pu appeler Z0 si j'ai effacé, mais c'est ZST intersecté avec Z fine qui était Z0. Ce sont des fonctions que dans le centre Bernstein qui s'annulent en dehors de nombre fini de composantes. Alors, Z peut s'écrire comme J de G, DG. Et la condition stable, dire que le J de G, c'est une fonction stablement invariante. Donc si on prend cet idéal fini dans la sous-algèbre stable de la sonde de Bernstein, on peut aussi le représenter comme des fonctions sur la base de Sternberg. Aussi qui sont lisses en dehors du discriminant. Donc on a une fonction, et comment on agit sur une autre fonction. Donc la question c'était vraiment écrire cette action qui était définie un peu spectrale en quelque sorte avec des formes géométriques. Alors pourquoi on veut vraiment le faire? Parce que je rappelle que la motivation originale c'était de trouver cette transformation de Fourier non abélienne qui est donnée par un élément dans ce centre de Bernstein stable. Et ensuite on veut calculer son action, non pas seulement sur des fonctions test, mais aussi sur les intégrales orbitales stables de fonctions test. Donc c'est exactement, si on écrit les choses dans l'ordre, c'est exactement l'action de ZST sur cet espace. Donc si on arrive à écrire une formule intégrale, on aura quelque chose. Et si la formule est jolie, on pourrait espérer démontrer une sorte de formule de Poisson, mais on n'est pas encore là, mais la formule n'est pas... Elle est un peu compliquée, mais en quelque sorte, l'espoir n'est pas perdu. Et voilà. Donc, juste je vais terminer ici un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'en fait, j'aurais dû préparer plus de trucs analytiques, mais je n'arrive pas avec le temps. Mais j'ai juste noté dans l'article de Moy et Tadic. Dans le cas SN2, et quand j'ai un 2 de F, ils écrivent une base explicite. On trouve une base explicite de ce ZST fin. On écrit des fonctions de la variable trace qui engendre cet espace. Donc du coup, au moins pour pour SN2, pour tout ce qui est analytique, on a qu'à les calculer directement sur ces fonctions, des fonctions explicites. Donc c'est des choses vraiment difficiles comme la transformation de la forme, la transformation de la forme, de la fog. Donc j'ai mentionné la semaine dernière qui dans ce contexte ça va aller dans de ZST fin dans SO de H. Donc vous voyez, tous les deux sont des fonctions de la variable trace. Eh bien, avec une condition que la constante gamma ici, c'est la même chose que la trace de l'autre côté. Je ne vais pas revenir dessus, mais je veux juste commenter sur les formules. Donc, les formules ici, ça devrait être puisqu'on a cette fonction qui est une fonction stable, j'écris J de G comme C est un nom O de J de C. Donc J de C, c'est une fonction de la variable trace qui est de nouveau, ça va être localement intégrable aussi. Et donc ici il y a un théorème. Donc J de G. Donc le Z est dans ZST, donc c'est pour SN2 de F. Et donc Z est J de Z de G. Et J de Z est comme le pullback d'une fonction JC sur la base de Sternberg, Hitchin. Et JC est une fonction absolument intégrable. Donc on peut faire un peu de Fourier. Donc on a J chapeau de C. C'est un Fourier de psi moins 1 J de C. C'est une fonction bornée. Et qui est localement constante. Donc après la transformation de Fourier, ça devient localement constante, et 0 en 0. Donc ça, c'est probablement important, que la transformation de Fourier, la formule devient nulle dans 0. Et du coup, on peut diviser par 0, par la valeur absolue. Diviser par la valeur absolue, est absolument intégrable.
Et ensuite, on peut faire la formation Fourier inverse, qui lui va être justement un élément dans SO de H. C'est une fonction continue. Donc ça, si on connaît que les fonctions blondes, les états orbitales stables, c'est des fonctions continues. Donc ça s'étend au lieu d'exprimer en fonction continue. Mais ici, si on se voit par ce suite de transition de Fourier, ce n'est pas la forme optimale de le faire, mais en tout cas, c'est consistant. Donc ça, c'est des énoncés que ce sera vraiment intéressant de comprendre pour l'autre groupe. Mais ici, on vérifie un peu à la main parce qu'on a une base de fonctions. On vérifie une par une. Mais c'est pas facile, en fait. Et c'est à cause de ça qu'en fait, que les constructions ont un sens. Parce qu'on faut répéter cette construction de la forme, on fait Fourier, on divise par le valeur absolue, on fait Fourier inverse. Donc il faut vérifier que les convergences. Et on vérifie par ce genre de choses. Et voilà, on s'arrête ici, si vous avez des questions.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.